RCF. Il est 18h10 et vous êtes sur RCF et comme tous les jours du lundi au vendredi, c'est le 18-19 régional. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
h 19h, c'est en direct, c'est RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis, encore un beau programme ce soir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un très beau programme puisque dans quelques instants, nous prendrons la direction de Varmerieville avec vous Jean-Pierre.
Absolument, puisqu'il s'agit de Patrice Mouzel, son maire, qui est avec nous comme tous les jours. Un maire nous parle.
On fera également des découvertes, là sera dans la deuxième partie d'émission, ou plus ou moins des rencontres avec Eric Persan, chef d'établissement au lycée Frédéric Ozanam, du côté de Chalon. Le lycée qui accompagne en ce moment les familles et ses étudiants dans le choix des vœux pour la plateforme Parcoursup. Vous savez qu'il y a jusqu'à ce soir 23h59, 59 secondes pour finir de finaliser les vœux. Et bien après, on rentre dans une nouvelle phase où il va falloir, j'allais dire, rentrer dans les démarches un peu plus administratives, faire les lettres de motivation, etc. Et bien le lycée Frédéric Ozanam, il rassure un petit peu les parents, les étudiants et il les accompagne dans l'ensemble de ces démarches. Nous serons également avec Laurent Devic qui nous donnera un rendez-vous du côté de Charleville-Mézières, à Mont précisément. Et puis vous savez, vous avez entendu, découvert la voix de Marion Yarnard, notre stagiaire à la rédaction. Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Elle présente la météo tous les soirs dans le journal de 18h30. Eh bien, ce soir, on découvrira son portrait, finalement, un petit peu qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle a fait son stage au sein de la radio RCF. Et puis, pour commencer cette émission...
Ah bah oui, on retrouve en général le jeudi notre chroniqueur économique, Gérard-Marie-Henri est avec nous et il est avec vous, Alexis.
Il est surtout avec nous depuis la Bretagne. Gérard-Marie-Henri, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Gérard-Marie, j'ai reçu un mail de votre part pendant les vacances et là je vois la bulle spéculative des tulipes. Je me dis c'est le 1er avril avant l'heure. Et finalement je me renseigne un petit peu et je m'aperçois que c'est vraiment un indice en économie. Gérard-Marie, la bulle spéculative des tulipes, de quoi s'agit-il ?
Donc c'est une histoire qui se passe aux Pays-Bas. C'était le premier pays développé en fait, hein, avant la Grande-Bretagne, avant la France à cette époque-là. Et donc il y a une économie assez dynamique et vers 1635, eh bien arrivent des ventes de tulipes. En fait, les tulipes, elles étaient en Turquie et puis elles arrivent en Europe et les horticulteurs néerlandais vont commencer à en faire pousser. Et les gens ont vraiment envie d'en acheter parce qu'elles sont assez magnifiques. Et le prix se met à monter de façon extraordinaire. Donc ça monte avec des rapports entre le salaire d'un travailleur et le prix d'un bulbe de tulipe qui peut aller jusqu'à 200, 300, et donc des prix vraiment incroyables. Et puis, d'un seul coup, pratiquement, enfin, au bout de quelques mois de cette grimpade, eh bien, ça se retourne et les prix redescendent à des niveaux tout à fait normaux. Alors on va considérer que c'est la première fois qu'on a vraiment ce qu'on appelle une bulle spéculative, c'est-à-dire des prix qui montent, des gens qui se disent « il faut que j'achète avant que ça ne monte encore », les prix continuent à monter, puis à un moment donné, les derniers qui ont acheté essayent de revendre, et là, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs pour revendre au prix où ils ont acheté, les prix se mettent à descendre de plus en plus bas. Et donc c'est un phénomène qu'on a soi-disant vu dans l'histoire pas mal de fois, et dont on pense qu'il pourrait arriver au Bitcoin.
Gérard-Marie-Henri, la bulle spéculative des tulipes, en 2024, ça n'existe plus tel qu'on l'a connu auparavant à travers l'histoire, comme vous nous le décriviez.
Certains disent, je n'y crois pas vraiment, mais certains disent qu'on a des phénomènes de prix qui dérapent extraordinairement à la hausse, et donc c'est le cas du Bitcoin qui est maintenant à plus de 70 000 dollars, donc qui a monté de 30% en quelques mois, enfin c'est vraiment une montée vertigineuse, alors avec des causes qui peuvent expliquer cette montée, mais avec quand même l'idée que c'est un peu trop rapide, un peu trop haut, et que ça va mal se terminer. Donc ceux qui pensent qu'il y a des bulles spéculatives disent le prix, quand il a atteint un tel sommet, il va redescendre et ça se fera très mal à ceux qui ont acheté à ce niveau-là. Ils vont perdre leurs avoirs, ils vont perdre leur fortune parce qu'ils ont cru que ça continuerait à monter indéfiniment. Or, ça ne peut pas monter indéfiniment.
Et les bulles spéculatives, à défaut qu'on en parle autour des tulipes, elles existent quand même malgré tout dans les marchés économiques aujourd'hui, Gérard-Marie-Henri. Ça, c'est quelque chose qui est resté.
Oui, mais les économistes, il y a deux catégories, deux camps, toujours, chaque fois en économie, il y a d'un côté et de l'autre. Donc il y a effectivement des économistes qui pensent qu'il y a des phénomènes de spéculation qui font monter les prix de façon extraordinaire et que c'est très dangereux et qu'il faudrait surveiller, contrôler, freiner. Et puis de l'autre côté, il y a les économistes qui disent le marché a toujours raison. Donc quand le prix a monté très haut, bah, c'est qu'il y avait des raisons pour qu'il monte très haut. Et s'il va redescendre, bah, c'est parce que il y a aussi des raisons objectives. Il n'y a pas de mécanisme infernal, il y a des bonnes raisons qui font que, bah, à un moment donné, le produit est rare, tout le monde en veut, le prix monte. Et c'est pour ça que dans un document que j'avais envoyé un beaucoup plus récemment, que tu n'avais pas peut-être reçu, on a eu le même facteur que pour les tulipes, on a eu les giroflées. Alors, giroflées, c'est plus au XVIIe siècle, c'est au XIXe qu'elles vont apparaître et puis qu'elles vont être diffusées. Et on a exactement le même scénario, c'est-à-dire les gens voudraient, les horticulteurs n'en ont pas beaucoup, les horticulteurs vont se mettre à satisfaire la demande, à en produire plus, les prix vont quand même monter parce que plus de gens vont se dire « moi aussi j'en veux, je veux profiter de cette superbe fleur ». Et puis d'un seul coup, pouf, ça va redescendre extrêmement, extrêmement brutalement.
Gérard-Marie Henry, vous nous avez parlé de deux catégories d'économistes. Vous intervenez régulièrement toutes les semaines sur l'antenne de RCF. Vous, dans quelle catégorie êtes-vous? Vous êtes lequel de ces économistes?
Je serais plutôt dans ceux qui pensent que le marché est assez efficace. De temps en temps, ils se trompent. Mais en fait, les informations sont là. Et donc, quand les prix d'une action d'une entreprise grimpent ou baissent, ben, c'est parce que derrière, il y a des vraies raisons. C'est que l'entreprise va très bien, qu'elle n'a pas trop de concurrence, etc. Ou qu'elle commence à avoir du mal. Et donc, si on regarde les cours des actions françaises, ben, on comprend pourquoi LVMH galope et que d'autres actions, que je ne vais pas citer, ont beaucoup plus de mal. Et donc il y a une raison derrière ces variations qui nous semblent un petit peu exotiques. Hein, certains pensent que la bourse c'est le casino, je prends l'exemple boursier parce que c'est le plus connu. En fait c'est pas du tout le casino, quoi. Les cours ne montent pas sans raison, il y a vraiment des raisons objectives. Alors qui des fois enclenche un mouvement de demande qui fait monter un peu plus le prix que ce qui ne devrait monter, mais après ça se régularise, donc il n'y a pas de choses où le prix est différent de ce qu'on appelle les fondamentaux. Et puis, alors, les autres économistes disent, ben, si, de temps en temps, le prix peut complètement se détacher des fondamentaux. Et ils citent le bitcoin où, justement, il n'y a pas de caractéristiques fondamentales. Le bitcoin, c'est un truc complètement déconnecté. C'est pas des matières premières, c'est pas de l'or, c'est pas des actions, c'est pas de l'immobilier, c'est pas des terrains. Il n'y a rien derrière. Et donc, effectivement, là, le prix peut grimper jusqu'à, je ne sais pas quel niveau. Certains disent plus de 100 000 dollars, 150 000 dollars bientôt. Effectivement, là, ça ressemble un petit peu à la bulle spéculative, mais je ne suis pas encore vraiment convaincu.
Et vous nous parliez également du cours du marché, c'est l'occasion, puisque l'on a un petit peu de temps aujourd'hui avec vous, Gérard-Marie Henry, de parler de ce marché. Si l'on fait le point là, à la mi-mars, comment il se porte, le marché, l'indice boursier, le CAC 40, tout ça, est-ce qu'on est dans une bonne courbe ou pas?
Oui, tout va très bien. Certains disent un peu trop. Encore une fois, pourquoi ça monte autant? Pourquoi il y a de tels résultats pour certaines entreprises, hein, encore une fois? Mais toutes les entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle, au luxe, etc., galopent, et ceux qui ont acheté des actions bah, sont très contents parce que le cours de l'action augmente, et puis ils auront des dividendes qui ne vont pas être vraiment petits, et donc tout va très bien. Et certains disent, oui, mais c'est quand même, on est au-dessus des niveaux habituels, on a un rapport entre le prix des actions et puis le résultat des entreprises qui devient un peu trop important, et donc ça devrait redescendre brutalement. Certains parlent d'un krach boursier. Mais encore une fois, moi je pense qu'il y aura des ajustements, mais il n'y a pas de risque de krach boursier. Il y aura des valeurs qui vont baisser, mais un krach boursier, c'est l'ensemble des valeurs qui baissent. Or, jamais dans les crises financières, on a toutes les valeurs qui baissent. Souvenez-vous par exemple que pendant les années 30, bah, des belles entreprises comme Coca-Cola ont continué à verser des dividendes à leurs actionnaires. Quoi. C'était la Grande Dépression, mais à côté de ça, il y avait des entreprises qui continuaient à fonctionner très bien. Donc on peut avoir des corrections sur certains titres, sur certaines valeurs, parce que l'entreprise bah, a du mal. Hein. Je pense par exemple le passage à l'électrique pour les constructeurs automobiles va bah, les faire souffrir. Il y en a qui arriveront, puis d'autres qui vont investir beaucoup, puis qui ne vont pas vendre beaucoup de voitures, et donc bah, le marché le sait, ça. On connaît les chiffres exacts de ce qui sort de chez Renault, combien les concessionnaires ont de mois d'avance dans leur stock, etc., combien ils vendent voitures, à quel prix, quelle est la marge qu'ils font. Et donc, quand c'est mauvais, bah, ça sanctionne. Quand c'est bon, au contraire, ça récompense.
Et vous parliez aussi, Gérard-Marie-Henri, des investisseurs, de ceux qui ont placé un petit peu de capital en bourse, qui espèrent récupérer sur ces actions qui galopent, comme vous le mentionnez. Pour l'auditeur lambda de RCF, peut-être qu'il se sent un petit peu déconnecté de tout ça, qu'il se dit « Oh là là, moi, acheter des actions, c'est pas à mon niveau, je suis pas un économiste ». Est-ce que l'auditeur lambda de RCF peut, s'il s'intéresse un petit peu à la bourse, investir à son tour dans quelques actions, et comment on fait ?
Oui, alors bien sûr, il peut le faire à titre individuel, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est vous-même qui gérez. Donc vous avez ce qu'on appelle un compte-titres et vous mettez dedans les actions, vous voyez combien vous avez d'argent disponible, vous dites j'ai 5000 euros, donc j'ai pas besoin pendant les vacances, j'ai pas besoin, voilà, et ces 5000 euros, je vais les mettre sur des actions, alors je vais regarder lesquelles sont vraiment très solides, je vais peut-être les payer un peu plus cher parce qu'elles sont très solides, par exemple les actions du secteur du luxe, donc je citais tout à l'heure LVMH, on pourrait citer Hermès, des actions comme ça, ou quelques les résultats économiques, les gens achètent du luxe, achètent du champagne, achètent du cognac, achètent des petits sacs, etc. Et puis, il y a la deuxième solution, c'est acheter une part d'une société qui fait cet investissement. C'est pas vous qui décidez de choisir, vous laissez ça à un gestionnaire. Alors évidemment, le gestionnaire, il va se faire payer, donc le résultat que vous aurez sera moindre que si vous aviez fait la même démarche, mais là, vous n'avez pas à vous fatiguer à regarder tous les jours, tous les cours, à faire des arbitrages, à dire j'aurais dû vendre ou acheter, etc. Là, vous faites faire par quelqu'un d'autre qui est théoriquement expert et qui a en fait un portefeuille beaucoup plus large que le vôtre, donc il peut le diversifier beaucoup plus, et plus vous avez un portefeuille diversifié, moins vous risquez d'avoir un problème, puisque même s'il y a tout un petit secteur qui dégringole, le reste ne bouge pas. Et donc, quand on est tout seul avec son petit patrimoine, c'est difficile d'avoir un portefeuille qui couvre des dizaines de sortes d'actions. En général, vous en avez 4-5 différentes, et c'est peut-être pas suffisant, parce que ces 4-5 sociétés pourraient quand même, tout ensemble, avoir des difficultés.
Eh bien, un grand merci Gérard-Marie-Henri de nous avoir éclairé sur le marché alors qu'on est parti de la bulle spéculative des tulipes. Ça nous a fait un petit peu d'histoire de l'économie aussi avec vous, avec toujours des nouvelles à retrouver sur votre blog gérardmariehenri.com. On se retrouve très bientôt, peut-être à Reims, peut-être en Bretagne, c'est vous qui décidez.
Peut-être en Bretagne encore une fois.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h22, un nouveau maire nous parle ce jeudi, Jean-Pierre.
Et notre maire aujourd'hui est Patrice Mouzel, il est maire de Varmerieville. Patrice Mouzel, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de mieux connaître Varmerieville. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune ? Varmerieville, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors Varmerieville, c'est 2697 habitants exactement. On est un territoire de 2350 hectares. Et nous sommes jumelés avec une commune du nord de l'Italie qui s'appelle Arret.
C'est presque à 2700. 2700. C'est pas mal. C'est quand même une grosse commune. Hein. C'est plus de... Parce que nous recevons souvent, monsieur le maire, des communes de quelques dizaines d'habitants, 80 habitants, 100 habitants.
On est la dixième commune de la communauté urbaine du Grand Reims.
Vous êtes maire depuis plusieurs années, peut-être. Vous étiez avant peut-être adjoint.
J'ai été élu maire en 2001 et j'ai jamais été conseiller municipal avant, donc j'ai été élu conseiller et élu maire en 2001.
Vous avez été mis dans le grand bain tout de suite finalement ?
Alors j'ai été mis dans le grand bain tout de suite effectivement, oui. C'est mon quatrième mandat.
C'est votre quatrième mandat. Et monsieur le maire, bon alors quelques petites questions. Une commune quand même qui a 2700 habitants, c'est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de maires disent qu'il y a beaucoup de paperasse. Dans une petite commune, ça va, mais là, vous avez quand même des personnes à conseil municipal pour vous aider, et puis une secrétaire de mairie, enfin quelque chose.
Alors, j'ai un directeur des services mairie.
Tout à fait.
Donc, ils sont 5 administratifs en mairie, et j'ai 7 personnes au service technique. C'est une commune qui demande du temps à être gérée. J'allais dire, il faut laisser de son temps. C'est-à-dire, bon, ouais, maintenant je suis retraité, donc j'ai un peu plus de temps. Mais auparavant, je me demandais comment je faisais pour avec mon travail et puis mon...
Bah oui, parce qu'il vous arrive maintenant sans doute de pouvoir faire des réunions en journée, ce qui n'est guère possible pour quelqu'un qui a une activité professionnelle.
Ah ben j'avais bon moi je travaillais à la sécurité sociale donc mon directeur me laissait du temps pour me consacrer à la mairie donc j'avais pas de soucis particuliers mais en plus d'être maire de Varmerville je suis conseiller communautaire délégué pour le Grand Reims pour le territoire de la vallée de la Suippe qui regroupe 7 communes. Donc aussi, je passe pas mal de temps pour...
Beaucoup de réunions, beaucoup de travail, bien sûr.
Beaucoup de travail, hein, c'est une cinquantaine d'heures par semaine, hein, c'est une amplitude horaire, d'aller de 8h du matin à 8h du soir. Hein,
on peut résumer, monsieur le maire, que finalement, c'est un travail pour vous pratiquement à temps plein aujourd'hui, on peut le dire.
Non, mais c'est un travail à temps plein, oui, mais effectivement.
Alors une petite question, quels sont les habitants de Varmerville? Il y en a peut-être qui sont là dans le village depuis longtemps, dans le bourg, il y en a qui viennent d'arriver, est-ce qu'il y a des... certains maires nous disent, avec le Covid, il y en a certains habitants qui veulent peut-être... Peut-être une maison, par exemple, avec un petit jardin, ils ont pensé au Covid, c'est peut-être un tout petit peu moins cher.
Si vous voulez, quand je suis arrivé en 2001, on a révisé le plan local d'urbanisme et on a créé 5 lotissements. Donc ça fait pas mal de monde qui sont arrivés sur Varmerville. Donc c'est vrai qu'ils ont tous construit, ils ont du terrain. J'allais dire à Varmerville, il y a 85% des personnes qui sont propriétaires. Et c'est un village où il fait bon vivre. Hein, on est labellisé 3 fleurs. Les gens me disent, c'est marrant, ici, tout le monde se dit bonjour. Effectivement, quand on se croise dans la rue, tout le monde se dit bonjour. Même si on connaît pas la personne, on dit bonjour.
Ça, c'est bien. Ça, c'est une relation personnelle. Et combien de kilomètres de Reims, à peu près, maintenant, Varmerville, pour donner une idée à nos auditeurs?
Reims, 16 kilomètres.
Donc, finalement, en 15-20 minutes, on arrive à Reims.
Voilà, vous sortez, vous prenez l'autoroute, enfin, la Nationale 51, mais qui est en 2 voies, et vous êtes directement dans Reims. Hein.
Donc ouais. ça va vite, monsieur le maire. Oui, alors, est-ce que, vous aviez évoqué, parce que beaucoup de personnes y sont attachées, l'aménagement, les fleurs, le cadre de vie, etc. Oui. Mais est-ce que vous avez un ou deux projets en cours ou profilent?
Actuellement, nous construisons un gymnase de 1200 m², hein, pour les sportifs, un dojo pour le karatéka, parce qu'on a un club de karaté qui est le premier club de karaté de la Marne, avec 170 adhérents. Et nous allons aussi faire un clubhouse pour nos boulistes, hein, qui sont une cinquantaine d'adhérents. Et nous allons refaire les 2 terrains de football pour nos 360 licenciés du football club de la vallée de la Suippe. Voilà les principaux, j'allais dire...
Dossiers
en cours pour la mairie.
Mais monsieur le maire, c'est beaucoup de choses, ça. Vous êtes aidé aussi peut-être aussi par le Grand Reims pour les réalisations ou par d'autres collectivités locales.
Alors, on demande un fonds de concours pour une seule réalisation, mais sinon, on est surtout aidé par l'État, par la région, par le département, hein, bien entendu. Hein. Parce que bon, c'est des sommes. Pour le gymnase, ça dépasse le 1 000 000 €, bien entendu. Et pour le dojo, c'est plus de 500 000 €, vous voyez.
Alors finalement, dans un bourg de 2700 habitants, vous connaissez pratiquement tout le monde, malgré tout.
J'allais dire, je connaissais avant, parce que je suis là depuis 68 ans. Mais je connais les gens qui viennent aux manifestations, bien entendu, mais on peut pas connaître tout le monde. Hein, mais je vous dis, on a un bon relationnel avec la population. Et non, ça se passe très bien.
Alors finalement, on pose souvent la question à tous les maires que nous avons en direct avec nous. Est-ce que vous êtes finalement un maire heureux? Parce que dans ce métier, dans cette mission de maire, il faut quand même être un passionné, il faut être passionné de ça, il faut aimer ça.
Alors, oui, il faut être passionné, donc il faut positiver si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'on rencontre, il y a toujours des insatisfaits, mais c'est un métier passionnant, c'est diversifié,
Et finalement, je vous interromps, monsieur le maire, mais finalement, le fait aussi d'être au Grand Reims et d'avoir des responsabilités, ça vous permet aussi de vous aider aussi dans la compréhension de la commune. Être au Grand Reims, c'est aussi savoir un peu comment ça fonctionne. Il faut mieux être vraiment bien impliqué dans les deux, comme ça vous avez des renseignements, une information.
Oui, oui, non, mais c'est sûr, hein, le Grand Reims nous a apporté beaucoup de choses aux communes, et le fait de faire des réunions à la ville de Reims, d'être dans les 143 communes, c'est vrai, c'est très important, et ça nous a appris beaucoup de choses, oui, effectivement.
Mais écoutez, monsieur le maire, Varmerieville, on entend souvent parler, hein, quand on dit Varmerieville, ça fait partie des communes de la Marne et de notre région que beaucoup de gens connaissent, où il fait bon vivre, où vraiment les gens sont heureux, ils se disent bonjour, vous l'avez dit, sans problème. Ça veut dire que on n'a pas tout dit aujourd'hui. Et faites-nous une promesse, d'ici quelques semaines, d'ici la fin de l'année scolaire, d'ici le mois de juin, peut-être aurons-nous l'occasion de refaire avec vous une émission pour prendre un dossier, pour prendre un sujet qu'on pourra davantage peut-être approfondir, si vous l'acceptez.
Ah ben bien entendu, aucun souci là-dessus, hein, c'est... Non.
Eh bien rendez-vous est pris alors, monsieur le maire. On vous contactera, on vous remercie d'avoir été avec nous, à très bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci à vous également Jean-Pierre, on vous retrouve en deuxième partie d'émission, évidemment vous restez avec nous, 18h30, passé de 30 secondes, le journal régional sur RCF. Avec les titres de ce jeudi 14 mars, l'opération nationale de la Fédération de chasse J'aime la nature propre se déroule en Champagne-Ardenne. À partir de demain et pendant tout le week-end, scolaires et usagers des bois sont invités à chasser les déchets dans les 76 communes champardonnaises. L'association Motherhood organise un week-end de confiance en soi par la danse à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes les 23 et 24 mars prochains. Il est encore temps de s'inscrire.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
L'événement national J'aime la nature propre porté par la Fédération nationale des chasseurs aura lieu ce week-end à partir de demain jusqu'à dimanche. À cette occasion, la Fédération régionale des chasseurs du Grand Est comptabilise déjà 175 sites de ramassage des déchets dans tout le Grand Est, dont 76 en Champagne-Ardenne, avec des milliers de personnes attendues. Un événement de sensibilisation et de mobilisation pour le directeur de la Fédération régionale des chasseurs du Grand Est, Bruno Ekenenbener.
Ce qui nous a motivés à le faire déjà sur le même week-end, c'est pour qu'on en parle d'une manière forte, hein, et qu'on puisse publier des chiffres importants. D'autre part, c'est d'y associer toutes les associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler en partenariat, que ce soit le comité régional d'équitation, que ce soit les bikers, que ce soit les pêcheurs et toute autre association qui veut bien y participer. Deuxième chose, c'est d'éduquer. Il faut avant tout ne pas jeter de déchets, et comme ça on n'aura plus à les ramasser. Il y a encore beaucoup de travail à faire et justement c'est pour ça que le vendredi s'est consacré aux jeunes, aux écoles, pour les éduquer dès leur plus jeune âge à ne pas jeter de déchets dans la nature, et puis aussi prendre le parti pris de trier les déchets, hein, parce que avant tout il faut ne pas en générer le moins possible, et donc tout ce qu'on peut trier, c'est avant tout une bonne opération.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. 28 opérations auront lieu ce week-end dans l'Aube, 23 dans les Ardennes, 17 dans la Marne, 8 en Haute-Marne. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'opération j'aime-la-nature-propre.fr. Avant les vacances, on vous proposait le portrait de la chanteuse marnaise Silda. Elle proposera ce samedi à 14h au magasin Cultura de Cormontreuil près de Reims un showcase gratuit ouvert à tous dans la limite des places disponibles. C'est les derniers jours pour s'inscrire au week-end de confiance en soi par la danse organisée par l'association Motherhood les 23 et 24 mars prochains dans les Ardennes à Signy-l'Abbaye, un événement à destination des mamans qui peuvent venir avec leurs enfants, mais aussi ouvert à toutes les femmes qui en ressentent le besoin. Cécile Margontier, présidente de l'association, et Myriam Murier, bénévole active.
Alors il s'agit d'un week-end dédié à la confiance en soi, accessible pour les femmes, qu'elles soient mères ou non, qu'elles soient accompagnées d'enfants ou non, puisqu'il y aura accès à un mode de garde sur place. Il y aura deux intervenants qui sont des danseurs, et le but, effectivement, c'est de prendre confiance en soi par la danse. Tout au long de ce week-end, il y aura différents ateliers. En fait, un atelier le samedi matin qui sera plus dédié à l'attitude, la posture, avec du coaching pour se connecter à soi-même, à sa féminité, prendre confiance en soi. Cette même personne animera également un atelier le dimanche matin avec une chorégraphie un petit peu cabaret. Et l'autre intervenant proposera des chorégraphies le samedi après-midi et le dimanche après-midi qui sont plus puissantes, on va dire, qui vous permettront de retrouver une certaine force.
On va partir sur quelque chose de plus rythmé, qui va aussi permettre de se défouler, parce qu'on en a aussi besoin. Donc toujours dans la bienveillance, sans regard extérieur. On n'est pas toujours à l'aise avec son corps lorsqu'on vient d'être jeune maman. Et cette expérience du week-end de danse, c'est vraiment aussi une façon de se reconnecter avec son corps, avec réellement son enveloppe corporelle, voir qu'on est encore capable de faire des choses, qu'on n'est pas seulement des mamans qui peuvent préparer des biberons. On peut aussi s'amuser et notre corps, même s'il a un petit peu souffert, il est toujours là pour nous.
Cette association a notamment pour but de rompre l'isolement ressenti par les mères et de prévenir la dépression postpartum dont souffre une femme sur cinq. Myriam témoigne des origines de son engagement au sein de Motherhood.
Je connaissais Cécile avant la création de l'association et lors de l'inauguration, j'ai senti qu'il y avait vraiment une sorte de sororité entre les différentes mamans que j'ai pu rencontrer. J'y suis allée en connaissant deux personnes. Je suis repartie avec, je ne dirais pas des amis, mais des copines. Et surtout, c'était pour moi, alors que j'ai un enfant qui a plus de 3 ans, l'une de mes premières sorties seule le soir. Et ça, j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment un bien fou. Et dès le lendemain matin, j'envoyais un message à Cécile en disant « Cécile, si tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi, on peut marcher ensemble ».
Inscription en passant par les réseaux sociaux de l'association sur Facebook et Instagram, motherhood.so. Avant de refermer ce journal à 18h36, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain vendredi déjà?
Alors des températures de saison pour l'approche du printemps qui arrive la semaine prochaine. Pour demain, vendredi 15 mars, nous aurons 12 degrés dans la matinée avec un ciel plutôt nuageux et 15 degrés avec des averses orageuses sur tout le territoire qui arriveront en fin d'après-midi jusqu'en milieu de soirée. Après ces averses, le temps redeviendra calme avec 12 degrés et des nuages. N'oubliez pas la fête d'Héloïse demain. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion, on vous retrouvera demain avec de nouvelles tendances météo et puis on vous retrouve aussi dans quelques instants pour parler un petit peu de vous à 18h37. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
J'allais vous dire bonsoir Marion, ça c'est fait. Comment allez-vous après cette météo? Ça va, vous prenez l'habitude cette semaine? Je vais même te tutoyer, c'est plus simple parce qu'on se tutoie en dehors de l'antenne. Comment tu te sens là après la météo?
Je me sens plutôt bien, ça va.
Bon, ça c'est une bonne chose, je vais te poser quelques questions pour apprendre à te connaître moi d'un côté, mais surtout pour que nos auditeurs sachent un petit peu qui tu es finalement, si tu le veux bien.
Bah oui, c'est parti.
Alors d'abord, Marion, dis-nous tout, quel âge as-tu?
Alors j'ai 16 ans et j'aurai bientôt 17 le 15 avril.
Ok, on aura une pensée pour toi le 15 avril. En attendant ton anniversaire, que fais-tu comme étude?
Alors je suis étudiante au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle en première CVP, soit communication visuelle et plurimédia, c'est-à-dire que je fais du dessin sur papier et du dessin sur ordinateur, principalement sur la suite Adobe, donc InDesign, Illustrator, Photoshop, tout ça, tout ça.
Et que vas-tu faire plus tard pour la suite de tes études comme futur métier aussi?
Alors déjà, je compte obtenir mon bac puis enchaîner sur un BTS dans la même filière pour essayer de devenir graphiste plus tard. Et pourquoi pas me tourner vers l'animation, donc la création de dessins animés. Mais j'avoue que je me questionne encore sur mon futur métier.
Et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Comment tu t'es retrouvée à RCF finalement?
J'ai dû effectuer d'abord plusieurs stages... pendant...
Elle s'est remêlée dans les feuilles.
Alors, je suis ici pour effectuer mon stage à RCF durant un mois.
Et quelles sont les choses que tu attends de ce stage? C'est une question improvisée, c'est absolument pas sur les feuilles. ne cherche pas la réponse, on est comme ça, nous, en direct, on improvise des questions.
Je cherche déjà à améliorer mon oral, à savoir mieux parler, mieux communiquer... parce que c'est vrai que dans le métier de graphiste, on est beaucoup amené à parler avec les clients et c'est vrai que ce serait beaucoup mieux pour moi, je pense, que j'en ai encore besoin d'apprendre.
En tout cas, nos auditeurs sont ravis d'entendre ta voix à la météo tous les soirs. Tu nous as parlé de CVP, de cette filière, donc communication visuelle plurimédia. Nous avons déjà eu quelques élèves dans cette section. Peux-tu nous dire où tu as effectué tes précédents stages ?
Alors, j'ai effectué mon premier stage de seconde dans une entreprise qui se nomme Panosign Service. C'est une entreprise qui crée des stickers pour faire des coverings sur les voitures. C'était vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai effectué mon deuxième stage, celui-ci que j'ai effectué en début d'année, donc en première, dans une entreprise qui s'appelle Sacré Lab, qui est une entreprise de web marketing, qui fait aussi de la photographie et du développement de sites web.
Eh bien, c'est pas mal tout ça. On a pas mal parlé boulot. Maintenant, pour apprendre aussi, toi, à mieux te connaître encore une fois, quelles sont tes passions dans la vie, tes hobbies en dehors des études, du taf, des stages, etc.
Alors, en fonction de ma section, je pense que vous vous doutez bien que le dessin me passionne, mais l'art en général, tout ce qui est au niveau mode, donc la mode de luxe, la décoration d'intérieur, j'aime beaucoup ça aussi. Et ce que j'aime avant tout, ce sont les arts martiaux qui me passionnent, donc le judo, la MMA, la boxe que je pratique avec mon père. Et ces deux passions sont vraiment des passions que j'affectionne depuis que je suis toute petite.
Eh bien, le dessin, tu veux le mettre à profit pendant ton stage en réalisant quelques documents. On aura l'occasion d'y revenir et tu en parleras certainement à nos auditeurs en fin de stage. La boxe, la MMA, les arts martiaux de manière générale, tu en parleras dans un prochain numéro du Sportiplex de Mac que l'on diffusera au mois d'avril sur les ondes de RCF. En tout cas, on a appris à te connaître un petit peu plus. On te dit à très bientôt pour de nouvelles météos, de nouvelles informations en tout sujet, Marion.
À très bientôt, Alexis, et à très bientôt tout le monde.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h41 jusqu'au 3 avril, les lycéens doivent finaliser leurs vœux d'orientation sur Parcoursup, une tâche pas toujours bien vécue par les élèves, ni par les parents d'ailleurs. Pour les soutenir, l'ensemble scolaire Frédéric Ozanam propose un accompagnement personnalisé et un dispositif nécessaire pour le chef d'établissement Éric Persan au micro de Christopher Fausten.
Bonjour Éric Persan.
Bonjour.
Chef d'établissement depuis la rentrée de septembre 2023, comment se passe votre première année scolaire à Châlons-Champagne ?
Cette première année est extrêmement riche. Je découvre, tout au moins je redécouvre ce bel établissement qu'est Ozanam. Et c'est vrai que c'est d'une grande richesse avec des équipes qui sont extrêmement porteuses autour du projet. Et c'est vraiment une année très intéressante.
Oui, et puis on rappelle, c'est pas la première fois que vous êtes chef d'établissement. Vous avez déjà fait un beau petit parcours dans le territoire.
Oui, tout à fait. J'ai déjà fait quelques années en tant que chef d'établissement.
Le premier trimestre de l'année 2024 est marqué par les choix à faire sur la plateforme Parcoursup. Et dans ce cadre, votre établissement propose un accompagnement personnalisé. Éric Persan, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cet accompagnement ?
La principale motivation, c'est ne pas laisser l'élève tout seul face à Parcoursup. On est bien conscient qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport à ce dispositif pour les jeunes. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer de faire bénéficier ces jeunes des conseils qu'on peut leur apporter par rapport à cette plateforme. Ces jeunes, par définition, ne la vivent qu'une fois, puisqu'ils sont qu'une fois en terminale et ne vivent cette transition terminale et en segment supérieur qu'une seule fois. Oui. Et donc, sont parfois un peu démunis sur les stratégies à mettre en place autour de cette plateforme.
C'est pourquoi donc l'objectif, c'est de trouver leur voie parmi les 21 000 formations proposées. Éric Persan, comment s'organise concrètement cet accompagnement personnalisé à Ozanam ?
Cet accompagnement personnalisé, c'est avant tout un dialogue entre le professeur principal et les élèves, des temps spécifiques avec ces jeunes pour essayer de les conseiller sur la constitution du dossier et surtout sur la constitution d'un dossier équilibré avec différents types de vœux, de façon à ce que les élèves ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier au risque d'être extrêmement déçus au mois de juin lorsque les réponses vont tomber.
Ça s'organise durant la journée à l'école ou ça se fait en dehors ?
Non, ça se fait pendant la journée à l'école sur des temps d'accompagnement personnalisé spécifique. Alors bien entendu, le jeune travaille aussi son dossier en dehors de l'établissement, c'est le principe. Mais il retrouve régulièrement le professeur principal pour pouvoir échanger sur ces questions. De même, ce que l'on essaie de faire, c'est aussi d'ouvrir les jeunes à différentes propositions proposition dans Parcoursup, c'est-à-dire qu'on fait venir des anciens élèves ou des intervenants du supérieur pour présenter leur formation, les attendus de ces formations, les dispositifs qu'ils proposent, de façon à essayer de susciter la curiosité des jeunes.
Donc ça demande comme une mobilisation de l'ensemble des professeurs, hein, justement, à rencontrer individuellement chaque élève de terminale.
Ah oui, tout à fait. Les élèves sont rencontrés individuellement. Alors pour certains, c'est relativement simple parce que le projet est clair et le projet est en phase avec les résultats du jeune. Pour d'autres, c'est plus compliqué.
Et ils sont toujours dans le flou.
Voilà, ils sont parfois dans le flou. Et donc, là, très clairement, ça demande un gros travail d'accompagnement.
Vous qui avez un peu l'expérience, justement, en tant que chef d'établissement depuis plusieurs années dans plusieurs établissements scolaires, est-ce que vous sentez justement que il y a de plus en plus d'étudiants qui sont un peu dans le flou, justement, par rapport à leur parcours d'avenir?
Je dirais pas plus. Il y a toujours une partie de jeunes. Il y a toujours une partie de jeunes qui hésitent sur le projet, qui sont pas rassurés. Parfois, les situations les plus difficiles, c'est des jeunes qui découvrent un projet un peu trop tard, et alors que le dossier est quasiment construit. Et là, c'est parfois les situations les plus compliquées.
Est-ce que vous avez besoin, en plus du professeur principal qui va échanger avec l'étudiant de terminale, de collaborer justement avec d'autres établissements supérieurs pour confirmer l'attente ou vraiment la réflexion de l'étudiant?
Oui, alors, ce qui nous a enrichi ces dernières années, c'est effectivement ce lien avec le supérieur. C'est-à-dire que, en multipliant ces échanges avec les établissements d'enseignement supérieur, ça nous permet quand même de coller à leur réalité également et de pouvoir conseiller dans les meilleures conditions possibles nos élèves.
Est-ce que vous avez un retour des étudiants, un retour convaincant de ce dispositif?
Oui. Oui, sur le retour, c'est surtout rassurant.
Rassurant.
Voilà, c'est le maître mot qui revient. C'est-à-dire que les jeunes...
Ils se sentent besoin d'être accompagnés.
Ah oui, oui, oui. Et surtout, par rapport à tout ce qui peut se dire sur Parcoursup, au moment où ils rentrent dans le dispositif, il y a quand même une forme d'inquiétude. Et donc, le fait de pouvoir bénéficier de cet accompagnement fait que ils sont quand même rassurés. Alors, bien entendu, ils sont toujours en attente des choix, et ça nous, je veux dire, c'est pas nous qui allons prendre les décisions, mais très clairement, ils maîtrisent le dispositif, et du coup, se sentent plutôt rassurés quant à l'ensemble du cheminement.
Quand on parle d'accompagnement, Éric Persan, on pense forcément à tout type de profil. On disait des étudiants qui sont sûrs de leur choix, d'autres qui sont totalement dans le flou, et ceux qui sont dans le flou, des fois, peuvent avoir des crises d'angoisse, vraiment ça peut jouer éventuellement sur l'en-santé. C'est quelque chose qui vous arrive régulièrement, et comment réagissez-vous par rapport à cette situation-là?
Alors je dirais pas régulièrement, mais c'est des situations qui arrivent. Effectivement, oui. On arrive à la fin d'un dispositif, le jeune qui est en recherche de projet, ça fait longtemps que nous les connaissons,
oui.
Sauf que en arrivant à la fin du dispositif, il y a une décision à prendre, et c'est
elle est importante.
Et cette décision est extrêmement importante. Ouais. Ils savent qu'il y a de l'enjeu, et pour certains, ça peut être particulièrement anxiogène.
Oui, ça peut être un grand stress pour eux. En tout cas, un très beau dispositif que vous avez mis en place depuis plusieurs semaines et qui va se poursuivre donc jusqu'à la date clé de cette inscription sur Parcoursup, hein, le 3 avril prochain. Avant de nous quitter, Éric Persan, parlons de cette année olympique et paralympique, hein, sans transition, avec récemment le passage de la flamme académique dans votre établissement. J'imagine quand même que c'était une grande émotion pour vous, en tant que chef d'établissement, de recevoir un tel événement.
Oui, c'était une très très grande émotion, et puis un grand moment. C'est le 10 janvier, nous avons pu réunir l'ensemble des élèves de l'établissement, l'ensemble des adultes, une bonne partie de nos partenaires pour cet événement vraiment marquant. Et ça a été vraiment beaucoup d'émotions de voir comment l'ensemble de ce public a été marqué par le passage de cette flamme. Vraiment, c'était une très très belle initiative du rectorat de lancer cette proposition, et ça a montré aussi un lien entre les différents établissements de Champagne-Ardenne, et ça c'est extrêmement positif.
D'autres événements à venir avant de nous quitter, Répersan, notamment les journées portes ouvertes, j'imagine, de votre établissement?
Oui, on a déjà fait une journée porte ouverte au mois de janvier, qui s'est très très bien passée. Et là, nous projetons deux soirées portes ouvertes. Le 5 avril de 16h à 19h et le 24 mai de 16h à 19h également, qui sont des portes ouvertes qui vont surtout permettre de découvrir les formations en lycée professionnel, puisqu'on le sait, les orientations au lycée professionnel sont parfois un petit peu plus tardives que les orientations au lycée général.
Merci Eric Persan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement au lycée Frédéric Ozanam. Très bonne fin d'année scolaire à vous.
Merci beaucoup.
Grand merci à Eric Persan, à Christopher, c'était depuis les studios de RCF à Châlons en Champagne, et il ne reste plus que quelques heures, on le rappelle, aux élèves de terminale ou étudiants en réorientation pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Les candidats auront ensuite jusqu'au 3 avril pour compléter leur dossier et confirmer chacun de leurs vœux. 18h50 sur RCF.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, on termine cette émission avec Laurent Devie pour parler de la famille du Sacré-Cœur de Jésus, une famille qui mérite d'être connue, Jean-Pierre, n'est-ce pas ?
Laurent Devie, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est vrai que nous avons appris que le 17 mars, c'est un dimanche, avait lieu un rassemblement départemental de la famille du Sacré-Cœur de Jésus. On aimerait bien en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de la famille du Sacré-Cœur de Jésus ? De quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit d'un mouvement spirituel qui prie par neuvaine le Sacré-Cœur, trois fois par an. Une famille du Cœur de Jésus est constituée de 14 membres et avec trois neuvaines par an, le Sacré-Cœur est prié ainsi tous les jours. C'est une spiritualité qui découle d'un vœu en fait du Père Gendron, un prêtre canadien en 1971 qui a souhaité que le Sacré-Cœur soit honoré et adoré ainsi. Et c'est ancré, enraciné dans la spiritualité de Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a eu les trois grandes visions en 1674 de Jésus, donc à Paray-le-Monial. Jésus qui lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour ne reçoit qu'ingratitude ». Et donc c'est à partir de ce moment-là que s'est développée la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ce message de Sainte Marguerite Marie a été relié aussi par Saint-Claude de la Colombière. Donc tous les deux on fait connaître ça donc dans notre pays il y a 350 ans, puisque à Paray-le-Monial cette année, ce sera le 350e anniversaire des grandes apparitions. Et nous on est dans cette continuité, tous les ans les familles du Cœur de Jésus sur les Ardennes se réunissent et nous organisons ça. Alors, ce dimanche 17 mars.
On va en parler de ce rassemblement le dimanche 17 mars. Ça sera d'ailleurs dans le quartier de Mont, à l'église Saint-Lié, dans la salle Saint-Paul qui touche bien sûr l'église. Mais simplement, on peut faire une petite confidence aux auditrices, aux auditeurs. Quand vous m'aviez contacté pour en parler, Laurent, vous étiez déjà vous-même à Paris, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il y avait les belles photos. Là, il y avait un rendez-vous déjà.
Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est une démarche tout à fait personnelle. J'ai accompagné mon fils qui avait un stage de découverte professionnelle à faire sur Paris. Il est en troisième au lycée Saint-Jean-Baptiste de Charleville. Et moi, j'en ai profité pour faire une retraite au Sacré-Cœur avec des adorations nocturnes. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'était l'occasion d'une démarche de carême et un temps très fort personnel. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, en fait.
Alors, revenons à cette rencontre, à ce rassemblement départemental de la famille du Sacré-Cœur de Jésus. Ce sera le dimanche 17 mars, ce sera salle Saint-Paul, place de Mont, à Charleville-Mézières. Qui est invité et quel est le programme ? D'abord, qui est invité ?
D'abord, c'est pour tout le monde. Alors, moi, c'est Famille du Cœur de Jésus, j'y suis depuis longtemps par mes parents. C'est pas forcément très connu et c'est une spiritualité, on va dire, entre guillemets, un petit peu confinée, puisque chacun est chez soi et prie ses neuvaines, voilà. Et le fait de faire une journée départementale comme ça permet un petit peu donc de sortir, puisqu'il n'y a pas de contemplation sans appel à la mission. Cet appel, nous, on l'a perçu, c'était l'an dernier, avec Marie-Noël Braquet, qui était responsable, et qui est décédée au mois d'août 2023, et qui, avant, elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a fait appel à Aurore et à moi, tous les deux, en nous demandant si on voulait bien reprendre cette charge. Et on a accepté avec plaisir. Et donc, on a pris en charge l'organisation de cette journée du 17 mars. En parlant avec le père Gauguelin, il a dit, faites ça en même temps que la messe de l'espace missionnaire qui aura lieu à Saint-Lié ce dimanche-là. Donc, on sera à l'église Saint-Lié, place de Mont, à Charleville, et le reste aura lieu à la salle Saint-Paul, la salle paroissiale attenante.
Alors, ce qu'il faut dire, le programme, c'est toute la journée, on peut venir peut-être en cours de route. La messe, c'est la messe paroissiale à l'église Saint-Lié à 10h30, mais le matin, il y a un accueil vers 9h moins le quart, et ensuite, il y a la louange, comme vous dites.
C'est ça, c'est ça. Alors, on propose un accueil, donc histoire donc de se retrouver. On va directement commencer par la louange à 9h pour être dans la joie. La spiritualité du cœur de Jésus est une spiritualité réparatrice. Et pour autant, ça ne doit pas nous empêcher d'être dans la joie. C'est pour ça qu'on commence par la louange. Il y aura ensuite un temps de partage pour que nous puissions faire plus ample connaissance, les membres de la famille, puisque finalement, on se voit qu'une fois par an. La messe à 10h30. Et puis, on a proposé, donc histoire donc de rendre la chose attrayante, après un apéro repas tiré du sac, eh bien d'avoir une séquence de théâtre avec la troupe avant-scène, de laquelle nous faisons partie, la famille de vie et nos élèves. Et puis, des choses très classiques et traditionnelles, le chapelet à la Divine Miséricorde, l'adoration, la possibilité de se confesser avant un goûter en fin de journée. Quoi.
Avec donc le théâtre, quel type des scénettes jouées par la troupe, puis ensuite une visioconférence avec les réalisateurs d'un film documentaire sur le Sacré-Cœur.
Voilà, alors malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les Gunelles. Ils sont très occupés, ils sont en train de mettre en place un film sur le Sacré-Cœur. Ils sont dans cette démarche de levée de fonds et donc ils n'ont pas pu nous consacrer du temps pour notre petite réunion. Mais donc effectivement, on a fait connaître leur initiative, mais on ne pourra pas les avoir en visio. Alors ça sera remplacé par les secrétaires nationaux du mouvement, René Mossy et Karine Laurençon, qui nous feront l'honneur d'être là et qui nous présenteront ce qui se passera à Paray-le-Monial au mois de juin, à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions. Et pour le théâtre, eh bien, on va proposer, nous, un petit voyage à ceux qui seront là, peut-être le plus long voyage du monde, celui qui consiste à descendre depuis notre intelligence jusque dans notre cœur. On a cette ambition-là, c'est-à-dire que les scénettes vont présenter les choses, laissent un peu la surprise, quelques petites séquences, mais qui cherchent à un peu interpeller, j'allais dire un petit peu intellectuellement, au départ sur la question de l'existence de Dieu, pour ensuite vraiment essayer de faire ressentir, et on a déjà eu l'occasion de le faire le 17 février, on était très très contents de l'impact que ça avait eu sur les personnes qui étaient là, de faire ressentir la grandeur de l'amour de Dieu pour nous et de sa miséricorde. Voilà ce qu'on se propose de faire avec Avant-Scène.
Alors, il faut rappeler, Laurent Devis, que tout le monde est invité, tout le monde est invité à participer. La messe, c'est la messe à l'église paroissiale, l'église Saint-Lié de Mont, à 10h30. Et puis donc, il y a toute cette animation, toute cette participation. Alors, souvent, il y a des familles, peut-être, plus davantage, parce que je vois s'il y a des enfants, des scénettes, les enfants peuvent aussi participer, regarder un peu le théâtre.
Oui, alors les familles du cœur de Jésus sont plutôt, on va dire, un mouvement plutôt fait d'anciens. Et notre souhait, ce serait d'essayer de faire connaître ça davantage, donc de décloisonner et de donner envie aussi à des familles, justement, et à des plus jeunes, de participer à ce type de spiritualité à la fois contemplative et missionnaire. L'occasion de le faire dans le cadre de la messe paroissiale et avec les paroissiens habituels, ce sera aussi l'occasion pour nous donc de faire connaître ça et de provoquer une synergie, donc dans des animations multiples, hein, donc à partir de la messe, au moment du repas partagé, le goûter du soir, du théâtre, etc., pour que vraiment la journée soit attrayante et puis qu'on soit heureux de vivre ces moments ensemble autour du cœur de Jésus.
Laurent Devis, merci de toutes ces informations. Alors, on se donne rendez-vous le dimanche 17 mars. C'est toute la journée à partir de 9h moins le quart, salle Saint-Paul près de l'église Saint-Lié, place de Mont à Charleville-Mézières, avec la famille du Sacré-Cœur de Jésus. Merci de nous en avoir parlé, de nous en avoir informé. Puis vous nous direz comment ça s'est passé dans quelques semaines.
Très bien, merci pour votre accueil.
Au revoir.
Un rendez-vous qui est bien noté dans l'agenda, donc merci Laurent Devis, merci Jean-Pierre. Si vous avez pris cette émission en cours de route, que vous avez envie de la réécouter, vous connaissez l'adresse, vous vous rendez sur le site rcf.fr, vous sélectionnez votre radio préférée, RCF Cœur de Champagne pour nos auditeurs du côté de Châlons, de Sainte-Menou, d'Épernay, de Vitry-le-François, RCF Reims-Ardennes pour nos auditeurs à Charleville-Mézières, à Vouziers, à Rethel, à Sedan, où que vous soyez sur le territoire, et vous allez dans la rubrique programme, vous découvrez ou redécouvrez le magazine magazine régional, le 18-19 en Champagne-Ardennes. C'est l'occasion aussi de réécouter les émissions un peu plus anciennes. S'il y a des passages en particulier qui vous ont plu, que vous avez envie de les revivre, eh bien voilà, c'est aussi la façon pour nous de vous accompagner. Dans quelques instants, il va y avoir l'information nationale proposée par le réseau RCF. À 19h12, on revient avec les programmes locaux, en particulier sur RCF France-Ardennes, ça sera la méditation. Et puis l'actualité et l'information locale revient dès 7h du matin sur RCF France-Ardennes. L'invité sera Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais également président de la Conférence des évêques de France. On le retrouvera également dans le magazine Le 18-19 en Champagne, parce que oui, on vous accompagne du lundi au vendredi de 18h10 à 19h. Il y aura tous les habitués du vendredi qui seront là. Jacques Cohen sera aussi parmi nous. Il nous reste temps de remercier Marion de nous avoir accompagnés jusqu'à 19h et de vous dire à demain avec de nouvelles tendances météo.
À demain tout le monde.
Et une très belle soirée à toutes et à tous. Un grand merci pour votre fidélité. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde ce soir.